sur RFI.
Merci d'écouter RFI. 6h30 à Conakry, 7h30 à Paris.
RFI Matin.
Et tout de suite, le journal d'Arthur Ponchelet.
Et à la une, elle ne reconnaissait déjà plus la légitimité des militaires du CNRD depuis le 31 décembre. Désormais, elle appelle ses membres à quitter tous les organes de transition. En Guinée, la plateforme des forces vives continue d'exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Sa femme alertée sur sa disparition. En Côte d'Ivoire, le communicateur Alinou Fasso a été arrêté en fin de semaine dernière. Les autorités lui reprochent ses liens étroits avec les bataillons d'intervention rapide de la communication, ses sympathisants de la junte Burkinabé très actif sur les réseaux sociaux. Au Mali, après le bras de fer entre le gouvernement et Barrick Gold, la crainte de conséquences économiques en cascade. Vous l'entendrez, le conflit entre le pouvoir et la société minière pourrait fragiliser l'économie locale. Au sommaire également, on sera au Togo pour évoquer une affaire d'escroquerie tentaculaire à plusieurs milliards de francs CFA. Et puis en France, où la justice s'intéresse au voyage de Nicolas Sarkozy en Libye en 2005, suite du procès de l'ex-chef de l'État sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.
Également à suivre après ce journal, témoignage exceptionnel sur RFI, celui de la femme d'un ressortissant camerounais enrôlé de force par des paramilitaires russes pour combattre en Ukraine. Elle répond aux questions de François Mazet. Les forces vives de Guinée appellent ses membres à se retirer immédiatement de toutes les institutions de la transition.
La plateforme qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile ne reconnaît plus depuis le 31 décembre dernier la légitimité de la junte militaire actuellement au pouvoir, selon les mots du communiqué. Elle continue de réclamer le départ du CNRD et la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par un gouvernement civil. Souleymane Souza Konaté est porte-parole de la coalition d'opposition de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie.
Pour nous, c'est une question de principe et de cohérence. Nous avons clairement dit que à partir du 31 décembre 2024, si le CNRD n'organise pas les élections, la junte ne sera plus légitime pour conduire la suite de la transition dans notre pays et qu'on allait exiger la mise en place d'une transition civile qui aura pour seul agenda le retour à l'ordre constitutionnel. Pour nous, après la manifestation du 6 janvier 2024, qui sont soldées par 3 morts et des dizaines d'arrestations, la décision a été prise au niveau des forces vives de Guinée pour inviter nos représentants à quitter les organes de la transition et à rejoindre, n'est-ce pas, les différentes initiatives au niveau des états-majors des forces vives de Guinée pour continuer la contestation jusqu'à ce que les militaires acceptent de revenir aux fondamentaux d'une transition.
Concrètement, ça veut dire quitter le Conseil national de transition, par exemple ?
Oui, quitter le Conseil national de transition, oui, c'est bien ça.
D'autres institutions sont concernées ?
Tous les organes de la transition, il y a certains qui avaient été nommés à certains postes de responsabilité dans l'administration publique. Aujourd'hui, nous les invitons à quitter leur poste et à rejoindre la dynamique de la contestation pour contraindre le CNRD à revenir aux fondamentaux de la transition. Et à surtout respecter les engagements qui ont été pris au lendemain du 5 septembre 2021.
Le porte-parole de l'ANAD avec David Baché. Il se présente comme opérateur économique et communicateur. En Côte d'Ivoire, Alain Christophe Traoré, surnommé Alinou Fasso, a été arrêté en fin de semaine dernière. Les autorités lui reprochent notamment ses liens avec le régime militaire au Burkina Faso. Correspondance à Abidjan de Binta Diagne.
Tout est parti des messages d'alerte postés par Sena Traoré sur les réseaux sociaux. Cette femme affirme sur Facebook que son mari a disparu. Elle dit avoir fait le tour des commissariats de police d'Abidjan en vain. Ce mercredi, le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, assure qu'Alain Traoré a été arrêté vendredi dernier selon la procédure légale.
Personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. Toutes les interpellations se font dans les règles de l'art. Et je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Il a été arrêté en bonne et due forme. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours.
Ce citoyen d'une quarantaine d'années est installé en Côte d'Ivoire comme opérateur économique et comme communicateur. Selon nos sources, on lui reproche notamment ses liens étroits avec les bataillons d'intervention rapide de la communication, des sympathisants de la junte burkinabé très actifs sur les réseaux sociaux et qui relaient la propagande des militaires au pouvoir. L'enquête est toujours en cours. Elle devrait notamment permettre d'établir si des poursuites judiciaires seront enclenchées contre lui. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
La Côte d'Ivoire, où la Cour d'appel a confirmé hier la condamnation de 2 responsables du mouvement fondé par Guillaume Soro, Génération et Peuple Solidaire. 2 ans de prison pour diffusion de fausses informations et troubles à l'ordre public. Leurs avocats comptent se pourvoir en cassation. Au Burkina Faso, une attaque terroriste sur un convoi entre Dori et Seitanga a eu lieu samedi après-midi. On l'a appris qu'hier, une colonne de gendarmes et de militaires escortant des transports civils a fait l'objet d'une embuscade près de la commune de Kachirga, non loin de la frontière nigérienne. Bilan, 4 gendarmes et 14 militaires tués, ainsi que 3 civils, selon des sources sécuritaires.
RFI 6h35 en temps universel. Au Mali, quelles conséquences après le bras de fer entre le gouvernement et Barrick Gold?
Le groupe minier canadien a suspendu ses opérations sur le site de Loulo-Gounkoto, l'une des plus grandes mines d'or au monde. Conséquence du conflit qui l'oppose au pouvoir, l'exécutif malien réclame le versement de plus de bénéfices de l'extraction minière. Alexis Bédu, quelles pourraient être les répercussions de cette crise pour l'économie du pays?
L'économie locale sera nécessairement fragilisée par cette décision. Barrick Gold, c'est plus de 8000 employés sur le complexe aurifère de Loulo-Gounkoto, sans compter les nombreux sous-traitants. La méthode utilisée par les autorités maliennes, arrestation, saisie des stocks et blocage des exportations, n'a pas été la bonne, d'après Mamadou Sinci Koulibaly, opérateur économique et ancien président du Conseil national du patronat du Mali.
Moi, je pense fortement qu'il y a eu incompréhension. Je pensais qu'il fallait s'asseoir sur la table, négocier, il faut donner un préavis si l'autre partie ne veut pas, et rentrer en négociation et non pas utiliser la force.
L'attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers pourrait aussi être ébranlée par cet épisode Barrick Gold.
Ils sont tous aux aguets. Il y en a qui devraient ouvrir des mines au Mali en 2025. Mais je pense qu'ils vont déménager en Côte d'Ivoire. Il y a des miniers de classe B aussi qui sont en train de partir.
La Côte d'Ivoire en principal concurrent du Mali, avec notamment ses deux importants gisements d'or, Lafigué et plus progressivement Koné, qui entreront en production cette année.
Alexis Bédu, au Sénégal, la loi d'amnistie viole-t-elle le droit international? C'est en tout cas ce que dit une étude publiée hier par l'université de Stanford et le think tank sénégalais Africa Jump Center. Tous deux parlent même de déni de justice. Ce texte suscite la controverse dans le pays. Souvenez-vous, la loi avait été adoptée en mars dernier dans les tout derniers jours au pouvoir de Macky Sall. Elle annule les poursuites pour les actes criminels liés à des manifestations politiques commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Correspondance à Dakar de Léa Lisa Vesteroff.
En amnistiant tous les crimes commis dans le cadre des manifestations entre février 2021 et 2024, quelle que soit leur gravité, et donc aussi les cas de torture et les crimes de sang, cette loi prive les victimes de justice, mais viole aussi le droit international, comme l'explique Henri Tulliez, avocat rattaché à l'université de Stanford et co-auteur de ce rapport.
Le droit international, notamment la Convention contre la torture, oblige les États signataires, comme le Sénégal, à enquêter et poursuivre les auteurs des pires abus, notamment la torture et les exécutions extrajudiciaires.
Pour l'heure, les familles de 58 personnes mortes dans ces manifestations n'ont donc pas pu porter plainte. Sedi Gassama, directeur d'Amnesty International.
À cause de la loi d'amnesty, toutes les plaintes qui ont été déposées par les familles des personnes décédées ont été purement et simplement classées. Et tant que cette loi d'amnesty sera là, il ne sera pas possible pour les cabinets d'instruction de rouvrir à nouveau ces dossiers-là. Et c'est pour cela qu'il est important que cette loi soit annulée très rapidement pour que ce travail puisse être fait, parce que les familles demandent justice.
Abroger cette loi d'amnistie, c'est l'une des options offertes au Sénégal, selon les auteurs de ce rapport. Les nouvelles autorités ont promis de le faire. Restera à définir quel crime serait susceptible de poursuite et jusqu'à quel niveau de responsabilité. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
La foule était compacte hier sur les bancs du tribunal de Lomé. Des victimes venues de tout le Togo ont fait le déplacement.
Toutes ont assisté à l'ouverture du procès du Trading Gate, une escroquerie à plusieurs milliards de francs CFA. Des responsables de sociétés de trading sont accusés dans cette affaire qui remonte à 2021, soupçonnés d'activités illégales. Compte rendu d'audience signé Peter Sassou Dogbé.
Ils sont 13 dans le box des accusés, 20 sont toujours en cavale. Pour la plupart des responsables de sociétés de placement illégal au Togo ou leurs collaborateurs, ils sont accusés d'être impliqués à divers niveaux dans une vaste opération d'escroquerie. Des milliers d'épargnants et d'investisseurs victimes pour un préjudice estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Selon la présidente du collectif des victimes de trading, Ayaba Sada, sa seule organisation représente 3000 personnes qui ont perdu 5 milliards de francs CFA. Ouvriers, fonctionnaires, cadres et militaires ont mordu à la meçon de cette pyramide de Ponzi. Des promesses de gains de 50, 100 voire 300% à la fin Nombreux sont ceux qui n'ont rien obtenu. Conséquence de cette perte, confie la présidente du collectif, des victimes devenues malades, endettées, des couples disloqués faute d'argent. Venus au tribunal mercredi, tous espèrent un remboursement de leurs capitaux et une éventuelle indemnisation. Peter Sassou-Dobé, Lomé, RFI.
Et notez que le procès a été renvoyé au 13 février prochain. Lui est toujours devant les juges en France, suite du procès sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. L'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir noué un pacte de corruption fin 2005 avec Muammar Kadhafi. C'est justement sur cette période que s'est penché hier le tribunal, et notamment, et plus précisément, sur les voyages de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux en Libye. Laura Martel, deux témoins en fonction diplomatique à Tripoli à l'époque, un ancien ambassadeur et un ex-commissaire, ont été entendus par les magistrats.
Jean-Luc Sibiud, ex-ambassadeur, n'a aujourd'hui aucun souvenir de la visite de Claude Guéant. Une visite censée préparer celle de Nicolas Sarkozy, considérée elle comme très importante par les Libyens, conscients d'avoir affaire à un potentiel futur président, souligne-t-il. À cette occasion, un bref aparté aurait eu lieu entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi sous la tente, selon l'autre témoin du jour, le commissaire. Mais l'ex-ambassadeur affirme lui que les deux hommes se seraient éloignés une trentaine de minutes pour un entretien exclusivement privé avec leurs interprètes. À l'époque, il n'avait pu en savoir plus, la traductrice française lui opposant le secret professionnel. Pour l'accusation, c'est là qu'aurait été noué le pacte de corruption. Parmi les contreparties envisagées, le parquet pointe le sort juridique d'Abdallah Senoussi, ex-patron des renseignements condamné à perpétuité en France pour l'attentat contre le DC-10 du TA. Or, et Claude Guéant et Brice Hortefeux ont reconnu l'avoir rencontré lors de leur visite. Ils affirment avoir été piégés. Mais il semble difficile pour un ministre d'ignorer la situation de M. Senoussi, relève un juge. Oui, surtout quand on va en Libye, complète l'ambassadeur dans un sourire. Le diplomate Matt souligne d'ailleurs que pour lui, la visite de Brice Hortefeux n'était pas banale et l'avait d'autant plus surpris que l'intérêt des Libyens pour les collectivités locales, le portefeuille de Brice Hortefeux, était très limité, remarque-t-il.
Laura Martel du Service France de RFI. La Libye, au cœur aussi des inquiétudes de l'ONU. La mission des Nations Unies dans le pays réagit à des images circulant sur les réseaux sociaux. On y voit, selon l'institution, des tortures et des mauvais traitements brutaux infligés à des détenus dans le centre de détention de Guernada, une partie du pays contrôlée par les hommes du maréchal Haftar. Ces images confirment la très mauvaise réputation de l'une des pires prisons de la Libye. Ouda Ibrahim.
La mission d'appui des Nations Unies en Libye condamne fermement ces actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme. Elle appelle à une enquête immédiate sur ces accusations et affirme se coordonner avec le commandement général de l'armée nationale libyenne pour permettre à ses spécialistes et à d'autres observateurs indépendants d'accéder sans restriction au centre de rétention de Guernada. La Manul réclame l'accès également à d'autres centres de rétention situés à l'est libyen. Ces images constituent, selon l'ONU, une illustration documentée de violations de droits de l'homme à travers la Libye. Dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui sont, selon leur accent de nationalité syrienne, égyptienne ou libyenne, en train d'être malmenées et torturées. Selon une source de droits de l'homme en Libye, il s'agit des personnes arrêtées en 2019 lors de la tentative du maréchal Haftar de prendre Tripoli avant d'être incarcérées à Guernada, près de la ville d'Al-Baïda. Les vidéos proviendraient d'anciens prisonniers qui ont quitté la Libye.
Ouda Ibrahim. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 6h43 en temps universel et je vous laisse en compagnie d'Andréane Mellard pour la suite des RFI Matin.
Merci Arthur Ponchelet. Vous revenez dans moins d'une heure pour un nouveau journal.